Vous écoutez
RMC.
Et bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit. Et oui. Thibaut Girgrand fait son premier after équipe de France. Le gars, on le fait monter d'une division. Et voilà, qui perd.
Il est venu avec son chat noir.
Et chat noir.
Et voilà.
Chat noir, Thibaut, merci les gars.
Maggie.
Merci d'être venu. Je ne sais pas s'il va revenir du coup. On va y réfléchir. Retour de l'équipe de France ce soir donc, et donc une défaite face au Danemark au Stade de France en Ligue des Nations. On va analyser tout ça ensemble. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Daniel, et Lionel Charbonnier est resté. Lionel, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, dis donc, toi.
Ouais, c'est vrai. La finale de Champions League, tout ça, il m'avait dégagé.
Bah non, on t'a... Bah peut-être que tu n'étais pas qualifié, mon vieux.
Bah voilà.
C'est comme la ministre des Sports. Peut-être qu'on n'était pas au courant.
Exactement.
C'était un peu trop loin. Il
a plus fait l'Europa League que la Ligue des Champions.
Tout. Ah non, il a fait la Ligue des Champions cette année.
Tout ce qui est Coupe d'Europe.
Du soir.
Non.
Mais la finale, c'était un samedi.
Voilà. Bon, le samedi, normalement, c'était son soir. Je sais pas. Bah, écoute,
bah, je ne sais plus alors.
Bon, bref. En tout cas, tu es là. C'est bien l'essentiel. On est ravis de te retrouver. Je précise que je ne t'ai pas non plus, moi, finale Ligue des Champions. On s'est fait dégager tous les deux.
Ah oui.
Tu n'étais pas qualifié.
Tu étais
disqualifié.
Bon alors les gars, avant de parler de l'équipe de France, avant d'aller également aux abords du stade, parce que c'est après le match l'autre jour samedi dernier qu'il y a eu plein de problèmes. Il y en a eu beaucoup après. On espère que tout va bien se passer ce soir. Tout s'est bien passé avant. Mais enfin, on sera aux abords du stade tout à l'heure. Juste avant, il y a eu des résultats ce soir assez étonnants. Alors fin de saison, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais dans le groupe de la France, dans la Ligue des Nations, donc le groupe 1. Alors la Ligue A, hein, donc les plus forts. Hein. L'Autriche a gagné 3-0 en Croatie ce soir, alors que donc le Danemark gagne en France 2-1. Et puis autre résultat assez étonnant, les Pays-Bas sont allés gagner en Belgique ce soir 4-1. Les gars, c'est une petite branlée quand même pour les Belges.
Avec blessure quand même de... Non, je ne sais pas si c'est une blessure, si c'est musculaire ou de... Comment il s'appelle devant Lukaku.
Alors, j'ai d'autres résultats à vous donner.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait également des matchs de qualif à la CAN ce soir. Vous dire que la Côte d'Ivoire mène 3-0 face à la Zambie. Serge Aurier a notamment marqué. Les Comores ont battu les Autos 2-0. C'est le premier match de Gassé avec la Côte d'Ivoire. Et vous savez qui est le sélectionneur de la Zambie? Un gars qui a joué à Metz, à Montpellier, d'origine croate.
Azanovic.
Exactement. Tireur de coup franc. Alyosha Azanovic, sélectionneur de la Zambie. Et puis le Burkina mène 1-0 face au Cap-Vert. Il reste 10 minutes à jouer. Je vous tiendrai informé des résultats définitifs. Alors sachez qu'il y a également une Ligue des Champions dans la zone CONCACAF, la zone de Daniel. Sachez que la Guadeloupe a battu Cuba aujourd'hui 2-1. Voilà, c'est beau pour les Guadeloupéens. Et Daniel, ton équipe de Saint-Vincent et Grenadines joue face aux Bahamas à 23h au Bahamas.
Ça gagne. Pour les Bahamas, ça gagne.
Attention. Hein.
Ça gagne pour les Bahamas.
Bon, on verra.
C'est quoi, Saint-Vincent, les Grenadines, Bahamas, ces équipes, c'est les serveurs des hôtels de luxe.
Ouais,
c'est ceux qui jouent entre eux, quoi.
Peut-être avec un grand-père de là.
Ou à l'arrière. Tu sais, il peut y avoir un mec qui joue en Angleterre, en Détroit.
Un grand-père, tu peux trouver, hein, du coin. Ouais.
Bahamas, toi, tu peux avoir un mec qui traîne en Angleterre dans une
D5. Attention, Bahamas, c'était la croisière Samus, c'était au Bahamas.
Bah, la croisière Samus, le principe, c'est que c'était un bateau, ça bougeait tout le temps.
Non, mais c'était toujours autour des Bahamas.
C'était une croisière dans les Caraïbes, donc forcément.
Ah oui, donc comment ils s'appelaient
Ils n'étaient pas principalement aux Bahamas, ils se baladaient, parce que c'est une croisière.
Comment ils s'appelaient,
c'est ça, Daniel, hein. Le mec qui est à l'hôtel depuis 5 ans minimum et qui joue au foot,
Isaac Washington,
il a le droit d'intégrer la sélection nationale.
Peut mettre 3-0.
C'est ça, c'est les mecs des paquebots, les mecs des hôtels qui jouent pour les Bahamas.
5 ans, il faut qu'ils soient 5 ans dans le championnat.
À Bahamas, il y avait souvent James Bond, tu peux avoir un méchant dans James Bond qui traîne dans une équipe.
Bon, voilà, c'est tout à l'heure. Allez, on y va les 3 points, les gars, parce que c'est l'équipe de France et qu'il faut quand même structurer le débat. Hein. Avant de parler du reste de l'actu, je précise qu'avant minuit, on parlera de Franck McCourt, qui en a marre, mais alors plus que marre des rumeurs de vente de son club, et on peut le comprendre.
Pourquoi il s'est pas vendu? Ça devait être vendu aujourd'hui.
Ah bah non, ça devait être vendu il y a 6 mois déjà, il y a un an et demi. Voyons, Daniel, t'as pas suivi l'actualité?
Si, mais quand au bout de 6 mois on repart sur une nouvelle rumeur, j'avais entendu que ça devait se faire en fin de semaine. On est que vendredi, c'est peut-être ce week-end.
C'est peut-être demain.
Ou dimanche.
Et puis on parlera aussi du PSG, parce qu'aujourd'hui
ils vendent le club.
On a eu l'officialisation de l'arrivée de Georges Campos et pas mal d'infos sur Luis, l'organisation.
Georges Campos, il est encore agent.
J'ai dit Georges, pardon, Luis Campos, bien sûr. Et il y a pas mal d'infos sur l'organisation, la future organisation. Ouais, t'imagines. Bon, tu l'as dit, Georges Campos, ça peut être
est-ce
pratique.
Qu'on peut faire une équipe avec les Campos du football? T'avais le gardien déjà?
Oui.
Je le kiffais, le gardien.
Gardien mexicain.
Je le kiffais, il était marrant.
Ouais.
Campos.
Il y avait un Campos à Lens, non? Quel joueur à Lens?
Ah, mais je pense que tu vas avoir quelques Campos, tu vas pouvoir faire.
Entre les Campos, ouais, un arrière central, un Campos.
Me semble-t-il. Ouais. Bon, allez, les 3 points. 22h50, c'est parti. L'after et l'âge coming.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Et ensuite, on ira au Stade de France retrouver Nicolas Pelletier aux abords du stade. Lionel, de quoi tu veux parler ce soir après cette défaite?
Bah, écoute, de toutes ces blessures qu'il y a sur tous les terrains et notamment dans les grandes nations, il y en a eu pas mal. Alors ceux qui ne sont pas blessés, les Courtois et compagnie, c'est tout simplement parce qu'ils veulent pas la faire. Donc tu te demandes un peu l'utilité, la fatigue physique, psychologique en fin de saison comme ça. Pour ceux qui ont fait énormément de matchs, alors on va me dire oui, mais les Danois aussi ils ont joué. Ouais, mais ils sont pas forcément tout le temps titulaires, ils jouent pas tout le temps dans les grands clubs et tout ça, donc je pense qu'en France, quand tu regardes, ce soit Varane, on va me dire, il a pas joué non plus. Mais bon, on en débattra tout à l'heure. Mais la fatigue psychologique quand tu joues pas, c'est très difficile aussi. Ensuite, j'ai été déçu. Mon deuxième point de l'attitude de Kylian aujourd'hui, qui a joué dans un rôle que je n'aime pas du tout.
Comment ça se passe?
Où il est trop reculé.
Ça, c'est son deuxième point.
Et puis.
Tu dis trois phrases, quoi. Trois mots, quoi.
Bah, tais-toi, toi, la dernière fois, j'ai pas pu en placer une.
Tu l'avais remarqué.
Et puis, le troisième point, vas-y, Daniel.
Daniel, tes trois points.
Premier point, c'est ennui, lassitude, fatigue globale. Le deuxième point qui enchaîne avec le premier, c'est une Ligue des Nations qui ne sert à rien et dont on comprend rien au fonctionnement et à l'utilité. Et le troisième point, si on veut quand même s'intéresser au match et aux joueurs qui composent cette équipe de France à 6 mois de la Coupe du Monde, il y a un petit truc qui pose un problème, une question, c'est est-ce qu'on est peut-être favori, mais je m'inquiète du changement de génération. Voilà, j'en parlerai dans un instant. J'éclaircirai ce troisième point qui peut-être vous laisse un petit peu circonspect, mais j'arrive. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pour expliquer ce que je veux dire là-dessus.
On va détailler tout ça dans quelques minutes. Mais d'abord, allons aux alentours du Stade de France, peut-être sur le chemin de la ligne 13 du métro où samedi dernier le chaos régnait.
Ah non, il ne s'est rien passé, hein, au Darmanin, il n'y en a pas encore
selon certaines sources, Daniel.
Parce que Darmanin, pour lui, c'est encore rien passé, il n'est pas sûr. Hein.
Nicolas Pelletier est là-bas. Nico, comment ça se passe là, à la sortie du stade?
Oh, c'est beaucoup plus calme que la semaine dernière, mais en fait, ce que disait un policier tout à l'heure, est-ce que c'est comparable à la semaine dernière? C'est très difficilement comparable à la semaine dernière. Il n'y a pas du tout les 20 000 supporters de Liverpool, les 20 000 supporters du Real Madrid. Donc en fait, on ne peut pas comparer ces deux situations. Alors oui, tout se passe bien. C'est une très bonne ambiance ici autour du Stade de France, mais c'est pas du tout comparable à la semaine dernière. Les scènes sont, l'organisation est beaucoup mieux faite. Les policiers sont beaucoup plus compréhensifs avec le public. Ils les aident aussi sur certains points. Ce n'est pas du tout comparable à la semaine dernière et surtout l'ambiance autour du Stade de France, malgré la défaite de l'équipe de France, est beaucoup mieux que celle après le match entre Liverpool et le Real Madrid, où il y avait eu encore des affrontements. Et je le confirme, comme le disait Daniel, il y avait eu des vols et des pickpockets à la sortie du Stade de France. C'est donc très différent, deux ambiances totalement différentes, mais peut-être aussi deux matchs totalement différents.
Peut-être un mot juste quand même, merci Nico, un mot quand même sur la com du soir, parce que tout à l'heure Nicolas nous racontait que le préfet l'Allemand, qui n'était pas là, hein, préfet de police de Paris, qui n'était pas là samedi dernier. Il y avait son directeur de cabinet qui était là et qui n'était même pas dans le PC sécurité d'ailleurs. Là, il est venu, caméra qui le suivait, et il a fait le tour de toutes les portes.
Ah ouais, dis donc. Voilà. Ah ça, si ça s'appelle pas un énorme foutage.
Surtout que ce sont deux matchs qui n'ont rien à voir l'un de l'autre.
Un match
d'équipe nationale et un match d'équipe de club. Les fans ne sont pas du tout les mêmes.
Les stadiers ne sont pas les mêmes non plus. D'après ce qu'on a compris.
En plus, mais surtout la ferveur autour d'une équipe comme Liverpool et le Real par rapport à l'équipe de France, les supporters ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas la même ambiance.
Bon, enfin voilà, donc aujourd'hui tout s'est bien passé, espérons que ça continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde rentre chez lui et puis voilà. Par contre, Gérald Darmanin n'était pas au stade ce soir alors qu'il était là samedi dernier. Donc peut-être que quand il n'est pas là, ça se passe mieux du coup.
Je sais pas, c'est normal qu'ils
ont changé la compo.
Ils cherchent les faux billets partout dans Paris, là. Ils n'arrivent pas à les trouver. Donc, il est avec ses équipes et il cherche partout, là. Il trouve pas.
Bon.
Il trouve pas.
Les gars, on va parler de l'équipe de France, mais juste avant, je voudrais quand même passer un petit message à nos amis bordelais, qui étaient là, qui étaient avec nous il y a deux jours de ça, à Mérignac.
Ah, vous étiez à Mérignac.
Oui, parce que ce sont les Bordelais qui vivent quand même des jours un peu difficiles, hein, au niveau football, ont encore pris un coup derrière la tête. Cornelius, une saison à Bordeaux, 3 buts, nul. Un match contre l'équipe de France, 2 buts. Extraordinaire.
Cornelius, moi je m'en souviens très bien.
Il a fait une bonne saison, hein, cette année.
Je crois que Bordeaux l'avait récupéré, notamment. Il jouait à Copenhague l'année où Bordeaux a joué Copenhague en Europa League et s'était fait gifler par Copenhague.
Ah, ils ont fait une CEMAC, Bordeaux, ils ont vu Cornelius, ils l'ont pris.
Mais Cornelius, c'est un attaquant qui joue tous les jours en Ligue 1. Après, qu'il soit arrivé dans un mauvais contexte, dans une équipe où il n'y a pas eu d'entente, d'affinité avec les coéquipiers, et Bordeaux, ces dernières années, on ne peut pas dire que ça ait formidablement fonctionné de ce côté-là. Mais c'est le genre d'attaquant qui ne devrait pas être en Turquie, il devrait être en Ligue 1. Et dans beaucoup de clubs, il joue sans problème, Cornelius. C'est vraiment un type de joueur.
La saison 2018-2019.
Il devrait être chez nous. Il devrait être en Ligue 1. C'est un bon attaquant.
Cette année, il a fait une très bonne saison.
Il y a des mecs, parfois, on les met dans des contextes défavorables et ils ne s'épanouissent pas.
Bon, allons-y sur l'équipe de France.
Faut y aller sur le point 1, là, non ?
L'utilité ?
Non, mais l'utilité, où tu l'as dit avant que j'arrive, enfin quand je suis arrivé, là, on regardait le match. Les deux vont ensemble. Tu joues une compétition où, clairement, tu vois que pas mal de joueurs, si tu regardes les équipes, globalement, plein de joueurs ont plus ou moins manifesté la volonté de pas jouer.
J'étais étonné de la titularisation de Karim, honnêtement. Je pensais qu'il allait rester sur le banc, mais c'est lui qui attendait à jouer.
Je pense que lui, il est dans une période où lui est insatiable et inlassable, et il a envie, parce que l'équipe de France, il a un retard avec les Bleus, donc il joue motivé, il joue encore bien, il met un très beau but, pas de problème. Mais globalement, je vois pas ce que les joueurs...
Alors, je pense qu'il n'était pas prévu qu'il joue tout le match, d'ailleurs. Ouais.
Je vois pas ce que les joueurs peuvent trouver à cette compétition. Je veux dire, ils peuvent...
Bah, il y en a qui l'ont dit, Courtois l'a dit.
Exactement. Ils peuvent bien nous formater, nous reformater tous les matchs amicaux de la Terre, essayer de nous vendre toutes les compétitions. À un moment, le mental, la psychologie, ça bloque. Les mecs sont dans une fin de saison où certains ont beaucoup joué. Il n'y a pas de compétition internationale, parce que logiquement, quand tu as un Euro, une Coupe du Monde, tu pars un mois en stage, et là, il y a une motivation naturelle.
C'est différent.
Et souvent, on se nettoie physiquement et on se rebooste mentalement. Là, on ne me fera jamais croire que les mecs imaginent que c'est important, qu'il faut qu'il y ait un moment inconsciemment, ou même certains consciemment, eux, ont dit non, et inconsciemment, ils sont cramés, ils ont pas envie.
Pour une Coupe du Monde, Daniel, le break est plus important.
Ouais,
là t'as 15 jours, c'est vraiment 15 jours, c'est la période où tu, alors quand tu, en plus la plupart de nos joueurs ont joué, sont allés très loin en compétition internationale, notamment dans les coupes d'Europe et tout ça, ou dans leur championnat, c'est joué la dernière journée très souvent et tout, et donc tu retombes psychologiquement, tu retombes dans une fatigue, la fatigue nerveuse, c'est celle qui est la plus compliqué à éliminer, plus que la fatigue physique. Et là, tu dois te remettre dedans, dans ce que disait Daniel, je suis parfaitement d'accord, pour une compétition que t'as pas trop envie de jouer. Donc tu t'y remets, mais sans trop
là que tu te blesses.
Ben ouais, complètement. Parce que alors après, on va me dire, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais lui, il a pas joué de l'année. Mais un mec qui joue pas de l'année, qui est un titulaire à Varane, par exemple, ou qui a fait moins de matchs que les autres, et qui psychologiquement doit vivre cette situation en se disant derrière, j'ai l'équipe de France, derrière, j'ai tout ça. Psychologiquement, c'est très compliqué aussi à vivre. Donc, il y a pas que la fatigue physique, il y a la fatigue mentale. Tout ça rentre en ligne de compte. Plus un petit coup de prépa physique pour remettre tout le monde qui a été cette semaine.
Mais attention,
il y en a eu deux. Hein.
Il faut être honnête. C'est la même chose pour les Danois.
Hein. Oui, bien sûr.
Quand on analyse le match de ce soir,
ils vont peut-être un petit peu moins loin quand même dans les grands championnats. Et j'ai pas fait le cas par cas.
Si tu prends tous les joueurs de l'équipe de France, il y en a un moment, il y en a pour qui on a un décrochage depuis longtemps. Mbappé, il est en vacances depuis la mi-mars. Hein.
Il y a eu d'autres choses à gérer. Oui,
d'accord. Enfin, il y a que Benzema, mais peu importe. Je crois que la lassitude, la non envie de jouer cette compétition, elle est elle touche les Bleus, elle touche les Danois. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut rentrer dans le match, s'interroger sur la prestation des uns et des autres, sur ce qu'a fait l'équipe de France. On peut,
moi, pour moi, elle touche plus les Bleus. Non, parce que ils sont plus dans des grands clubs, le Milan AC, Théo Hernandez aujourd'hui.
Mais je crois que ça n'a pas tant à voir avec la longueur de la saison est un élément. L'autre, c'est juste,
combien de matchs,
un élément, mais l'autre, c'est vraiment
champion à dernière journée.
Jouer cette compétition. Qui donne pas envie. Il y a des mecs qui te reformatent ça, la FIFA, ils te disent, il y a une Ligue des Nations, la Nation League. En plus, quand tu le dis en anglais, t'as l'impression que c'est encore mieux, que c'est encore plus important. Mais c'est du bidon.
C'est l'UEFA, Daniel, hein. Tu sais qu'à la base, c'est l'idée de Platini, hein, ce truc.
Et puisque, Platini peut avoir des mauvaises idées, là-dessus, moi, j'ai jamais adhéré. Alors
ça offre quand même un avantage, c'est qu'au moins, t'as les adversaires, on va dire, de niveau, équivalent à toi.
Mais là,
en octobre déjà.
Ouais, c'est ça.
C'est une nouvelle qui commence.
Ouais, mais là, c'est plutôt la période, c'est pas la fin là.
Mais non, la France a gagné en octobre.
Et alors là, c'est quoi ça?
Bah c'est la nouvelle.
Ah bon, mais il faut faire quoi? Mais ça donne droit à quoi ça?
Allez en octobre.
Mais tu fais quoi avec les poules là quand t'es là-dedans?
Tu pourrais quand même te regarder.
Mais je m'en
c'est quand même ton boulot.
Je comprends rien ce truc là.
Bah alors là, t'as une phase de poule. Le gagnant de cette phase de poule, il va faire ensuite un Final Four.
Et la France est avec l'Autriche et la Croatie.
Exactement.
Il y a que le vainqueur qui va dans le
poule. Après fait une demi-finale, finale, et comme en octobre.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Et il y a quatre poules.
Oh, t'as compris.
Il y a quatre poules.
En fait, il y a les poules.
Non, ce qu'on m'avait trouvé, c'est qu'on avait déjà joué en octobre. Je me dis,
en fait, en gros, t'as ces quatre groupes-là, c'est la première division avec les meilleures équipes.
D'accord. Et après, ils font un final four avec tous ceux qui sortent des quatre poules.
Voilà.
Ok, j'ai compris.
Et la France a gagné, étonnante du titre de cette magnifique compétition.
Ok, très bien.
Bon, ben après, c'est vrai que globalement.
Pour moi, la période n'est pas bonne. Ça vient trop près de la fin des différents championnats.
Les gars, ils ont fait
ça pour habiller les matchs amicaux.
Il y a toujours eu des trucs en juin.
Oui,
soit t'as une compète, soit t'as des matchs amicaux.
Mais quand tu regardes, tu sais que c'est une compète.
Quand tu regardais l'intensité des matchs de juin. Je peux te dire, c'était les matchs amicaux, bien évidemment.
Déjà, il y en avait deux, les matchs amicaux, il n'y avait pas quatre.
Les matchs amicaux du mois de juin, c'est toujours des énormes merdes.
Ah oui.
Là, quand il y a la compète, ça n'a rien à voir, comme on disait tout à l'heure avec Lionel. Déjà, t'as le championnat.
Je vous rappelle qu'une année, l'équipe de France était allée faire une tournée en Amérique du Sud, je ne sais pas si vous vous souvenez, aller jouer au Brésil, en Uruguay, au mois de juin.
C'était
l'année où il n'y avait rien.
C'était nul. Donc, globalement, ça sert à rien. Bref, le match, ils l'ont quand même fait. On a eu parenthèse, puisque Deschamps n'était pas sur le banc.
Peut-être deux blessés quand même.
Peut-être, il s'en fout, mais je lui présente quand même.
On attend les nouvelles.
Mais je lui présente quand même mes condoléances pour ce qui lui est arrivé, parce qu'il n'était pas sur le banc et c'est rare qu'un sélectionneur ne soit pas là. Donc c'est fait. Parenthèse refermée. On constate quand même que maintenant l'équipe de France, elle a l'air de clairement s'inscrire dans une défense à 3. Deux mecs sur
quand
les côtés.
Quand elle est passée à 4, j'ai
l'impression que maintenant c'est ça. Maintenant là, c'est.
C'est plutôt un choix offensif de Deschamps.
Ouais. Je sais pas si c'est un choix offensif. En fait, il va falloir s'interroger.
Tout dépend de l'animation que tu vas mettre dedans.
Coman et Hernandez sur les Coman, c'est pas
un latéral. Clairement, c'est plus offensif. Et même le discours l'a été. Il a dit j'ai envie de changer. J'ai compris qu'il fallait proposer plus de choses.
Disons-le, c'est un changement positif de Deschamps. On a assez dit.
Sauf que ça se voit pas. T'as beaucoup subi quand même le jeu. Hein.
Exactement. Ce qui s'est passé dans toute l'animation, et ça je l'ai regretté lorsque on faisait les commentaires en direct. Dans l'animation, t'avais Koundé qui était toujours devant Coman, qui montait beaucoup trop. Donc que faisait Koundé?
Koundé, il joue jamais à 3 aussi. C'est ça le problème.
Mais il était beaucoup trop offensif.
Il a pas joué comme ça depuis qu'il était à Bordeaux.
À l'image de ce qu'il avait fait, je crois que c'était contre la Finlande, il me semble. Là, il y a pas de souci. Mais d'être offensif. Mais par contre là, il était tellement offensif que Coman était obligé de rééquilibrer défensivement. Et donc Koundé se retrouvait toujours devant Coman, qui se retrouvait arrière. Et Koundé en position de centrer. Les positions, les postes ont été inversés. Et là, c'était très mal dans l'animation. C'était très mal pratiqué. D'ailleurs, à la mi-temps, on a complètement changé. Je pense que Guy Stéphan a dit à Coman, reste devant, jouez sur Coman dans la profondeur, c'est là où il est le meilleur, et c'est là où on a été le meilleur avec l'équipe de France, avec Coman beaucoup plus offensif.
Donc le problème, c'est que le système, ça part de
c'est
bon sentiment, mais
système,
ça fonctionne pas
forcément. Le système, tu peux mettre ce que tu veux. Dans l'animation, une animation selon le système, elle peut te foutre le système en l'air. Mais aujourd'hui, en première mi-temps, l'animation a foutu le système en l'air.
Est-ce que le système, l'animation, comme tu es en train de le dire, il va pas également dépendre des joueurs qui seront sur le terrain.
Qu'est-ce que je veux dire par là?
Est-ce que on n'est pas en train de reconstruire une équipe? Parce que moi, les questions que je me pose, et c'était le point 3 que je voulais évoquer tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que dans le 11 qu'on peut imaginer titulaire, ce sont encore les meilleurs joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui, Lloris est le meilleur gardien français?
Attention, dans les 11 titulaires, il y en a pas mal qui...
Tu parles
de ceux qui sont champions du monde?
Si tu imagines un 11 titulaire, si la compète, elle était
pour
pas...
Pour moi, il y a des jeunes à intégrer.
Si... Alors, c'est la question. Donc, je vais poser les questions, tu vas essayer d'y répondre. Si la compète n'était pas en novembre, qu'elle démarrait là. On démarre dans 2 semaines la compétition. Est-ce que Lloris est encore le meilleur gardien français?
Il aurait débuté comme ça.
Est-ce qu'il aurait débuté? Je pense aussi qu'il aurait débuté. Je te demande, est-ce que c'est encore le meilleur?
Ma réponse est non.
Non.
Voilà. Est-ce que Varane est encore un des meilleurs défenseurs centraux français?
Non.
Est-ce qu'au milieu de terrain, Pogba, s'il revient, mérite encore d'être titulaire?
Non, t'as les Tchouaméni, t'as la même qui sont pas là. Alors, et qui vont être là sûrement au mois de décembre.
Tu peux rajouter Griezmann à la liste?
Évidemment, bien Griezmann sûr. Aussi. Donc, mais je pense que vous aviez compris, je voulais pas en rajouter d'autres. Est-ce que quand tu vas aller tu vas aborder la prochaine compétition, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que t'es en mesure aujourd'hui d'écarter en gros les vieux briscards? Les cadres qui ont été champions du monde.
Ils seront pas écartés parce que tu peux pas non plus balancer que des jeunes comme ça. Je vois où tu veux en venir, Daniel. Tu peux pas balancer des jeunes sans qu'il y ait cette phase où les anciens seront là pour les gérer.
Je suis d'accord avec toi. Et alors, comment tu vas peser le truc?
Eh ben là, t'as des matchs qui vont se faire. Aujourd'hui, t'en as eu un. Demain,
oui, mais qui t'enlève et qui tu gardes?
Parce qu'aujourd'hui,
par rapport à la Coupe du Monde, aujourd'hui, on est d'accord que, a priori, vu leur niveau et vu ce qu'ils font en club depuis maintenant quelques années, Pogba, Varane, Lloris, Griezmann, 4 joueurs très importants. Et attention, ouais, dans une moindre mesure, il y a une question à se poser. Ça dépend. On sait quand même. Moi, je trouve que ça fait 2 ans, 3 ans maintenant, on ne sait pas quel Kanté on voit. Il y a un Kanté extraordinaire.
Il a été mis en deuxième mi-temps, là.
Il y a un Kanté qui est encore vainqueur de la Ligue des Champions il y a 1 an, tout pile.
Depuis un an, en fait.
Si tu vois en Angleterre, si tu parles avec les Anglais, il y a un Kanté qui est toujours extraordinaire. Parfois. Mais c'est un joueur qui a été beaucoup absent aussi.
Il y a eu des blessures.
Et tu sais pas s'il peut retrouver ce niveau-là. Mais bon. Lui, je le mets par rapport aux autres. Les autres sont prioritaires dans mes critiques. Moi, je me dis, à l'approche de la compétition, t'en sors un, pourquoi tu sors pas l'autre? Tu vois, comment tu vas sous-peser l'entrée des jeunes?
Tu peux pas tous les sortir en même temps.
Donc, je pense aussi que c'est compliqué de mettre que les jeunes. Je sais pas, imagine, tu mets Maignan, Konaté à la place de Varane, Tchouaméni à la place de Pogba.
Déjà là, la ligne derrière en deuxième mi-temps, on a vu que cette ligne avait vraiment pris l'eau. Les deux buts, bon, c'est un problème d'alignement de Théo Hernandez.
Théo Hernandez, les deux fois, il s'aligne. C'est lui qui s'aligne très très mal.
Mais il s'aligne pas. C'est lui qui couvre tout le monde et les deux, il est fautif sur son alignement. Mais après, quand tu mets Saliba, Koundé, tu mets que des jeunes. On l'a vu, il y a eu du mal. Et d'ailleurs, les ballons sont passés dans l'axe. Hein. Même si les autres se sont alignés, les ballons sont passés dans l'axe. Donc, tu peux pas mettre que des jeunes comme ça, les aligner et attendre qu'ils se démerdent tout seuls. T'es obligé de faire des transitions. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est ce qui s'est pas fait. Par exemple, en équipe de France, quand Domenech a dit les anciens, j'en veux plus. Il est reparti avec une autre. Il est vite revenu sur ce qu'il avait dit. Il a rappelé Zizou, il est allé chercher Fabien, il a dit bon,
Laurent Blanc fait la même, je te rappelle à l'époque.
Ouais, mais il n'y a pas que Domenech. Mais c'était aussi un peu la faute aussi pour moi à Roger Lemaire, par exemple, qui disait les anciens, on continue. Ils ont tellement continué qu'à un moment donné, ils étaient cuits.
Alors, Roger Lemaire, il a gagné l'Euro 2000 grâce à ça.
Non, 2 ans après, mais 4 ans après.
Ah oui, là, d'accord.
Après, tu prends une valise à la Coupe du Monde. Hein.
Ok, mais enfin, dans un premier temps, ça.
Heureusement que quand t'es champion du monde, 2 ans après, t'es champion d'Europe. Manquerait plus que ça. Alors 4 ans après, c'est plus la même.
C'était pas signé quand même.
Oh, quand même, c'était les meilleurs joueurs du monde. Ils étaient tous numéro 1.
Qui l'a viré entre 2000 et 2002?
J'ai pas entendu, pardon.
Qui l'a viré entre 2000 et 2002?
Entre 2000 et 2002, personne. Pas grand monde.
Bah toi.
Ah non, mais il m'a pas viré, moi je suis parti. Parce que je... Ah non, moi je sentais la merde. Mais annoncé, c'est. Je sentais le truc arriver. Et d'ailleurs, je l'ai dit hein, quand j'ai été convoqué. Je l'ai dit, attention, ce qui se passe, c'est qu'on n'intègre pas de jeunes. Et quand on va se retrouver et qu'on dit justement les vieux, je continue avec les vieux, dans 4 ans, on aura tous 36 ans. 36 ans pour faire une Coupe du Monde, t'es pas bien. Et ben là, c'est ce qui se passe. Et là, Dédé, lui, il le fait, je pense, intelligemment. Il peut pas mettre, pour répondre à Daniel, tous les jeunes tout de suite. Ça va se faire progressivement. Mais il y en a quand même certains qui vont avoir un ticket d'immunité, je pense.
Laurent est là, au 32-16, supporter des Bleus. Laurent, bonsoir.
Salut l'équipe de l'After.
Alors toi, paradoxalement, t'es content de ce qui s'est passé ce soir?
Ouais, super content.
En de théâtre, la défaite.
Ah non, vous savez, en théâtre, moi je vous amène de la littérature. À chaque fois, je suis le théâtre de service qui passe.
Ouais.
On dit que la défaite est novatrice, alors que la victoire est conservatrice. Et en fait,
t'as
sans cynisme aucun, ce soir, je suis très heureux parce que si je dis pas de bêtises, je crois que on reste sur 12 ou 13 matchs sans défaite. Et ce qui nous arrive ce soir, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux dans la perspective du mondial.
Tu veux dire mieux vaut que ça arrive maintenant qu'au premier match du mondial.
Remettre les têtes à l'endroit, t'as raison.
Quand tu dis, Gilbert, vaut mieux que ça arrive maintenant, je dirais, sauf ton respect, c'est pas aussi simpliste que ça. Sauf ton respect. C'est-à-dire que, c'est pas que c'est bien que ça arrive maintenant, c'est que c'est nécessaire que ça arrive à cet endroit-là, avant la série des matchs qui vont arriver, les trois matchs à venir, plus les deux matchs amicaux qu'il y aura avant le mondial. Ça va permettre à Deschamps, qui vient de repasser un système à trois et qui, encore une fois, face à un bloc bas, face à une équipe organisée, se rend compte qu'on n'a pas d'animation, qu'on n'arrive pas à animer le cœur du jeu, ça va lui permettre d'être en réflexion avec Stéphane sur la manière de renourrir à la fois son effectif. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Daniel, il y a une vraie réflexion à avoir sur des joueurs qui sont cadres et qui sont inscrits dans l'inconscient collectif de tous les supporters, parce qu'on les suit depuis des années, mais il y a une vraie réflexion à avoir sur des joueurs qui ne font plus rien en club. Et il faut réussir à disséminer quelques petites parcelles de nouveautés pour dans une alchimie, et je te rejoins Lionel là-dessus, dans une alchimie qui va permettre de créer l'efficacité sur le prévert, comme on dirait chez nous aussi chez Shakespeare. Mais il va falloir que Didier Deschamps réfléchisse sacrément à la manière qu'il va avoir de se comporter face à des équipes qui maintenant, pour la plupart, vont faire ça face à l'équipe de France. Se poser en bloc bas, et quand l'équipe de France joue à 3 derrière, on ne s'en sort pas. Et donc, moi, j'ai pas les réponses. Hein. C'est vous les spécialistes. Moi, je fais du théâtre.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que finalement, ce système à trois mecs derrière, qui, a priori, est séduisant, nous emballe un peu tous parce qu'il comporte des promesses de jeu et de beaux jeux, finalement, quelle référence il a?
Bah, il n'en a aucune, si tu regardes bien. Regarde,
on s'est un petit peu tripoté sur la Ligue des Nations, mais
est-ce que c'est... Daniel, la Ligue des Nations, c'est le seul finalement non-écueil, parce que pour le reste, rappelez-vous sur le dernier Euro.
Bah, quand ils ont essayé à l'Euro, ça n'a pas été une réussite. Hein.
Bah ouais,
C'était le début.
Bah, la première mi-temps face à la Suisse, on est à 3 derrière, ils se rendent compte que ça ne va pas. Il change de système de jeu, il revient à quelque chose de plus décent, traditionnel, entre guillemets, pas très novateur, mais en tous les cas solide. Résultat, on met 3 buts, sauf que derrière, on se fait éliminer par la force du jeu, par la force aussi de l'insolence et d'un égo mal placé. Et c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, j'espère vraiment que du côté des cadres de l'équipe de France et du staff, ils vont se mettre autour de la table, sans affolement, il n'y a rien de grave hein, ce soir, mais qui vont se dire, bon, les gars, faut peut-être un peu qu'on se regarde un peu le nombril et qu'on se dise, là, il y a peut-être des choses à changer. C'est pour ça que je vous disais, sans cynisme aucun, que je suis très heureux ce soir que ça arrive maintenant. J'avais qu'une peur, moi, c'est que ça arrive, ce match-là face au Danemark, dans le dernier match qu'on va faire face à eux, en septembre avant novembre. Là, ça arrive 5 mois avant.
À la limite, on s'en fout un petit peu si c'est sur le dernier match, parce que après tu les rejoues. Là, ça va être le dernier match contre le Danemark. On les joue tout le temps.
On les rejoue en septembre et on les rejoue à la Coupe du Monde après.
Et tu les rejoues à la Coupe du Monde. Ouais. Donc à la limite, là, ça sera peut-être plutôt un match de poker menteur. Va falloir gagner sans trop te dévoiler et tout le dernier.
Moi, Lionel, ce sera un bon 0-0
Il y a de grandes chances.
J'étais en train de revoir la finale de la fameuse Nation League d'octobre, la finale contre l'Espagne. Ils jouent soi-disant à 3 derrière.
Ils sont à 3.
Sauf que
les deux latéraux sont couloir droit. À 5, hein.
Ouais. C'est Pavard.
Ouais.
T'as Koundé, Varane, Kimpembe, Théo Hernandez et Pavard.
Théo à gauche.
En gros, ça fait une sorte de défense à 5 en fait. C'est finalement
c'était beaucoup plus défensif.
C'est finalement la marque de fabrique des champs. Et après, t'as eu.
Non, mais là, t'as Coman à la place de Pavard.
Et dans le jeu, tu te fais pas mal balader. T'as le but fantastique de Benzema. En fait, t'as pas de référence avec un jeu à trois derrière et deux pistons qui sont offensifs. Le fameux schéma qui soi-disant nous fait un peu triper. En fait, on l'a finalement quasiment pas vu dans les matchs amicaux, des trucs comme ça. Donc envisager qu'à la Coupe du Monde
après,
tu vas y aller.
L'effectif
dans
est en train de changer. C'est pour ça que t'as un Klose, l'arrivée d'un Klose qui est.
Non, Daniel, si met ça
qui est sur le côté
sur
droit,
les 10 derniers matchs avant le Mondial et qu'il arrive au Mondial et qu'il nous remet son 4-4-2 d'avant. Là, tu te dis attends.
La question ne sera pas. Moi, je ne peux que l'encourager à être ambitieux. La question est si tu l'es.
Continue comme ça.
Non, mais non, oui, non, mais
il faut pas tout remettre en cause aussi le système.
De quelle façon tu l'es?
Parce qu'il y a une défense.
Parce que si t'as à l'intérieur des joueurs qui sont finis, que tu n'arrives pas à gérer ton renouvellement de génération parce que soit tu les changes tous, soit t'en enlèves que deux, soit tu. Ça va être vachement difficile à peser, ça. Donc, moi, je suis convaincu qu'on a probablement parmi les meilleurs joueurs du monde pour constituer un 11 très compétitif. Sauf que je ne sais pas si tu peux les mettre tous parce que ça veut dire que tu écartes des anciens et que si jamais tu les mettais. Je sais pas s'ils ont assez d'automatisme et d'expérience entre eux pour pouvoir prétendre à la victoire dans une Coupe du Monde. Voilà.
Laurent, tu veux ajouter un truc?
Ouais, juste pour ajouter à l'analyse de Daniel qui encore une fois est absolument brillantissime. Je rebondissais sur ce que tu as dit sur le match face à l'Espagne. En fait, je sais pas si t'as entendu, je te disais, ouais, on était à 3, mais en fait, on était à 5 derrière. Parce que sur les côtés, évidemment, c'était Pavard et je sais plus qui c'est qui avait de l'autre côté à gauche, mais en gros, on avait une défense à 5. Voilà, Théo. Et là, en fait, là, si vous voyez, sur ce qu'il y avait au-dessus de Koundé à droite, c'était Coman. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il nous met à trois derrière, il essaye de mettre juste au-dessus, à droite et à gauche, deux joueurs offensifs. Et du coup, ça le déséquilibre complètement parce que sa philosophie, sa verticalité à des champs, c'est d'avoir une défense solide. Et il y a quand même quelque chose à trouver. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas quel est le bon schéma de jeu, mais il n'est pas trouvé le schéma. Et j'espère que... On va voir les
Laurent, je pense que c'est pas une question de schéma, c'est une question d'animation et j'en parlais dans mon point quand Daniel se moquait de moi tout à l'heure que j'avais été long, notamment en première mi-temps dans le système. Le système n'est pas à remettre en compte. Par contre, dans l'animation, quand tu vois que Koundé se retrouve devant Coman. Et ouais. Que Coman sait parfaitement, tu viens d'en parler toi Laurent, du déséquilibre qu'on pouvait avoir. Quant à Koundé, il est quand même axial droit. Il est même pas sur le couloir droit. Il se trouvait complètement devant Coman. Donc, ok, qu'il fasse le truc de temps en temps. Mais quand c'est récurrent, que faisait Coman? Coman reculait pour récupérer pour faire l'équilibre défensif. Et donc, là, c'est l'animation qui n'est plus bonne. D'ailleurs, ça a été rectifié. Koundé n'est pas passé une seule fois en deuxième mi-temps devant Coman. Pour moi, et dès le début de la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus de verticalité dont tu viens de parler. T'as parfaitement raison. Et donc, c'est l'animation qu'il va falloir mettre en œuvre. Et donc, l'utilité de rester quand même, je pense, dans cette animation, dans ce système-là, pour que toutes les courses soient coordonnées, les compensations soient coordonnées avec des joueurs du poste. Par exemple, un Klose maintenant qui est là, qui revient en équipe de France, il est là parce que c'est un vrai piston. Théo, il est là. Bon, aujourd'hui, pour moi, il n'a pas été très bon parce qu'il est fautif aussi sur les deux buts, Théo. Mais ça arrive, c'est pas, voilà, on va pas tout non plus tout jeter. Mais ce sont des joueurs très spécifiques. Le 3-5-2, c'est quelque chose de très, très, très spécifique. Et beaucoup de joueurs ont été formés dans un 4-4-2. À la base, parce que les cadres ont été formés aussi dans la formation de cadres, on partait tout le temps dans un système de 4-4-2. Et à partir du moment où maintenant on voit des changements et où le 3-5-2 devient de plus en plus commun, eh ben il y a des joueurs qui n'ont pas cette spécificité et il y en a d'autres qui la retrouvent avec Klose, Théo Hernandez. Il peut y avoir Pavard. Pavard est un joueur qui pourrait se retrouver axial droit. Aujourd'hui, on l'a pas vu, mais c'est un joueur axial droit. Il a été formé comme ça, Pavard. Aujourd'hui, il a pas joué.
Merci Laurent.
Bah merci beaucoup à vous les gars. Merci pour tout encore. Et puis.
C'est quoi tes projets au théâtre là?
Ah écoute, là au théâtre, je suis en train de mettre en scène un Fedo. Une grande comédie avec l'École nationale de Cannes-Marseille, là. Puis on part en tournée dans tous les festivals cet été. On va avoir chaud, on va porter de la claquette, on va manger de la frite saucisse et on va jouer dans des gradins de 800 personnes. On est content.
Voilà. Super. Parfait, bravo.
Bon, on te souhaite une bonne tournée. Bon, merci.
Amuse-toi bien avec Fédon, on se marre toujours.
Merci, Laurent.
Ciao, les gars.
Ciao.